Aujourd'hui, on a bravé le diable et on a décidé de vous parler du sabbat des sorcières. Du coup,
on s'est réunis autour d'un verre,
on a parlé d'arrêt d'histoire,
et on a fait un podcast.
Bienvenue sur Godet à Mousse. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godet à Mousse, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour d'une bonne bière. Ce soir, j'ai en ma compagnie le grand, le talentueux, le magnifique Arne.
Oh merci, dit Mathias, tu es aussi bon.
Je suis aussi racoleur que le malin pour t'emmener.
Exactement, que nous avons vu aujourd'hui.
Tout à fait, nous sommes rendus à Elzel.
Pour faire nos recherches sur finalement qu'est-ce que c'est ce sabbat des sorcières. J'avais déjà entendu parler du Shabbat, si, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais jamais du Sabbat, et donc ça m'a intrigué. Et donc du coup on a été voir, quoi. On s'est réunis autour d'un verre, oui, mais on a été sur place. Maintenant on se sent tel Indiana Jones qui va dans son temple perdu pour faire un podcast du coup. Donc,
On est historien comme lui, historien de l'art.
Ouais. Ouais, voilà, t'es historien de l'art, j'allais dire archéologue, mais...
Ah bah oui, c'est vrai, j'ai fait de l'archéologie, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Alors on vous fait un petit plan très rapide, on va d'abord vous parler de cette fameuse bière, la quintine. Alors pour vous parler efficacement donc, de ce fameux personnage, de cette fameuse quintine, nous allons vous parler très sommairement des sorcières et des sorciers, mais on considère que le thème même de la sorcellerie mériterait un autre podcast complet. On espère que une de nos amies pourra venir nous aider à faire ce podcast, vu qu'il y a énormément de questions liées au féminisme qui sont liées à la sorcellerie. Ensuite, nous pourrons vous parler du sabbat des sorcières à proprement parler. Alors, pour déguster cette fameuse quintine, nous nous sommes rendus à Elzel et je vous invite à écouter ça tout de suite.
Alors, nous voilà à Elzel pour une petite dégustation de quintine. Bonjour Arne.
Bonjour Mathias.
Comment on se retrouve?
Incroyable!
Alors on s'apprête à déguster la quintine bio, n'est-ce pas? Alors à l'aspect, qu'est-ce qu'on peut dire?
Elle est trouble. Parce que c'est une bière non filtrée, non pasteurisée.
Non filtrée, non pasteurisée, non, avec des aliments 100% naturels et 100% belges.
Ça c'est quand même incroyable.
Magnifique, hein?
Franchement, donc, ça c'est
coup,
top.
Voilà, elle est un petit peu trouble, mais c'est une blonde. Ah. Avec une belle mousse.
Pourquoi mais? Et c'est une blonde, et elle est trouble.
Elle est rafraîchissante.
Ah, ça fait trop de bien.
C'est super léger. Bon, on l'a eu au fût, hein.
Oui, oui.
C'est quand même différent.
Non, mais c'est bien, c'est trop bien.
Un petit peu citronné. Légèrement.
Légèrement.
La mousse, c'est assez crémeux, en fait.
C'était la fin du fût. Il faut quand même préciser qu'il y a plein de sorcières autour de nous.
Ça fait un peu peur, hein. Il y a des gens qui hurlent. Alors, on vous laisse pour le moment. On reviendra avec la quintine blonde. Si on en a le courage. Salut.
La quintine était à la base brassée par cette fameuse brasserie elzéloise avant d'être rachetée par la brasserie des Légendes, qui elle produit aussi la Gouillasse par exemple, qui elle est située à Hattes.
Peut-être la Goliath aussi.
Et la Goliath, tout à fait. Peut-être qu'on en parlera.
Voilà, les géants et tout ça. Enfin bon, bref.
On fera un podcast là-dessus.
Ah, mais ça c'est une excellente idée.
Un de ces quatre, voilà. Et donc cette fameuse quintine, elle est déclinée en quatre type, nous avons la blonde, nous avons l'ambrée, nous avons la bio et nous avons la quintine de Noël. Alors ce qui est super bien avec la quintine, c'est que tous ces ingrédients sont 100% belges.
Tout à fait, le houblon par exemple, il vient vraiment de tout près de Poperinge, pour être une petite ville de Flamande, pour être exact. L'orge apparemment vient de la ferme familiale du brasseur. Donc,
tout à fait.
Donc voilà, c'est vraiment... C'est vraiment tout près. Et il est maltais, donc la malterie, elle est à Belœil, donc également pas très loin. Hein, les fameuses nuits de Belœil et tout ça, jamais été. Mais...
Non, mais très beau château, surtout très beau parc.
Ah ben voilà. Donc voilà, tout ça, en effet, ça a un caractère très, 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 très local dans cette brasserie, ce qui est assez rare, et il faut le souligner, du coup.
Ouais, c'est très chouette. Les bouteilles sont très très agréable à ouvrir, donc ce ne sont pas des bouteilles à décapsuler, mais ce sont des petits bouchons à l'ancienne qu'il faut ouvrir et qui font un beau petit plop à l'ouverture. Il y a encore pas trop longtemps, elles étaient vendues encore dans leur bon vieux bac en bois.
Ouais.
Je crois que ça a récemment changé, j'ai pas eu l'occasion d'en voir, mais voilà, en tout cas ça avait quelque chose d'assez typique. Et l'évolution qu'a connue la quintine avec sa fameuse quintine bio, c'est qu'on est face à 100% d'éléments bio, comme son nom l'indique. Le suspense.
C'est incroyable comme information. Ce qui est aussi très sympa sur...
Merci.
Ce qui est aussi très sympa, c'est le logo hein, de la quintine, une sorcière qui est non pas sur un balai, mais sur un fourquet, donc qui est cet ustensile qu'on utilise pour brasser de la bière.
Alors nous avons d'abord dégusté la quintine bio, qui était très, très fruitée,
très
finalement.
Fruitée, très légère, très fruitée. Oui. Rafraîchissante, vu qu'on était en pleine vague de chaleur.
Oui, il fait excessivement chaud, c'est peut-être le diable qui nous accable
c'est
cette chaleur.
C'est probablement le diable.
Mais en tout cas, les deux quintines que nous avons dégustées étaient servies au fût. Alors, bon, il y a sans doute des différences entre la quintine en bouteille et la quintine au fût. Mais en tout cas, très désaltérante, de bonne saveur. Un tout petit peu citronné.
Un tout petit peu citronné, clairement. Ouais. On sentait clairement un peu de citron.
Alors, c'est une bière qui est trouble, hein, due justement au fait qu'elle ne soit
pas filtrée. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment... c'est du produit terroir, quoi. C'est du bon produit terroir. Et après, ça, on a bu une blonde qui, elle, était très, très... beaucoup plus houblonnée. Il y avait clairement un peu plus d'amertume, on sentait moins ces fruits, on sentait beaucoup plus le houblon, un peu plus lourde aussi du coup.
Oui, elle était plus lourde.
Et avec la chaleur, ça n'aidait pas, mais très très bonne aussi, enfin selon moi, hein, qui suis-je finalement pour dire ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas.
En attendant, on peut quand même dire que la blonde, elle titre à 8% alors que la bio à 5,9%.
Ah ben voilà.
C'est normal qu'on ait senti quand même une petite différence.
Ceci explique en effet cela.
Alors, justement, cette bière s'appelle la quintine en référence à une sorcière qui aurait habité le village d'Elzel. Arne, est-ce que tu as quelques infos sur cette fameuse sorcière ?
Mais écoute, elle a été condamnée au bûcher le 26 octobre 1610 et elle s'appelle en effet Elzel...
Quintine.
Pardon, elle s'appelle Quintine, Quintine de...
Del Clisserie. Elle était âgée de 38 ans.
38 ans.
Alors que les autres sorcières étaient beaucoup plus âgées, hein, proches de la soixantaine.
Voilà. Mais souvent, il faut savoir que beaucoup de sorcières qui ont été condamnées, et on y reviendra, étaient assez âgées. Souvent des femmes seules, d'ailleurs.
Tout à fait.
Donc, finalement, qu'est-ce que c'est la sorcellerie ? Hein, c'est quand même intéressant de juste s'intéresser au mom. C'est l'art de jouer avec les sorts, et donc l'art de jouer avec le destin, et donc du coup de l'influencer. C'est un peu ça, la sorcellerie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de cultures différentes, un peu aux quatre coins du monde. C'est quelque chose qui existe déjà depuis très très longtemps, apparemment. Même Hammurabi en parlait déjà. Mm-hmm. Donc voilà, c'est quelque chose de très très ancien. Alors souvent, on mêle un peu magie, sorcellerie, mais en fait, c'est quand même deux choses différentes. Parce qu'on va vraiment, à partir du Moyen-Âge et dans nos régions, hein, pour être bien clair, on va vraiment lier la sorcellerie avec un côté un peu diabolique. L'Église va s'y intéresser, va pas s'y intéresser tout de suite. Hein, souvent, donc, on a toujours cette image du Moyen-Âge où on brûle les sorcières et tout ça, mais le moment où on brûle les sorcières, justement, c'est beaucoup plus tardivement, c'est vraiment de la fin du Moyen-Âge, c'est du 14e siècle. Et on va les brûler jusqu'à ce que cette pauvre Elzel en 1610 cette pauvre quintine en 1610 elle est brûlée également, mais c'est vers le 17e siècle qu'on va enfin arrêter, enfin réduire en tout cas ces pratiques de bûcher, de torture en tout genre et de questions très bizarres.
Alors la sorcellerie, c'est évidemment très facile. C'est la solution la plus simple pour donner une raison à nos malheurs, finalement. C'est de se dire qu'un tel nous a jeté un sort, etc., etc. Et c'est là que le sabbat va prendre de l'importance à un moment donné, justement, parce qu'on va passer d'une vision de la sorcière ou du sorcier qui vit un peu tout seul, reclus chez lui, et qui va égorger des poulets ou qui va jeter des mauvais sorts aux habitants d'un village, à vraiment des entités qui se regroupent et qui prennent alors ce côté vraiment démoniaque parce qu'on se regroupe pour rencontrer le démon, justement. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours cette image, très souvent vous le verrez en peinture, d'une vieille femme qui va s'aider d'un grimoire. Elle va toujours pervertir, d'une certaine façon, une jeune fille qu'elle va enduire d'un certain engouement qui va lui permettre de voyager justement sur ces fameux balais ou instruments un peu phalliques qui voyagent toujours. C'est toujours une idée de la perversion qui est là et qui va pouvoir partir. Même Félicien Rops hein, va représenter des gravures avec des sorcières et parfois il y a uniquement une jeune femme de dos avec un balai présenté sur le côté, parfois en train de lire un grimoire, mais voilà, chaque fois on peut identifier cette sorcière qui s'apprête à partir ou à être initiée justement par cette vieille femme.
Ouais, parce que vraiment, donc, ce qui définit la sorcellerie autant que toutes les pratiques qui ont lieu, c'est vraiment ce commerce charnel avec le diable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, du coup, quand Jeanne d'Arc là, elle se fait condamner pour hérésie, mais ça ennuie un peu les juges qu'elle soit reconnue comme. Que la virginité de Jeanne d'Arc est reconnue, ça ennuie du coup un peu les juges parce qu'ils peuvent pas du coup l'accuser dans cette voie-là.
Mais d'ailleurs, il y a certains historiens qui vont travailler sur la question de la sainteté et de l'hérésie. Finalement, quel rapport est-ce qu'il pourrait avoir entre des saints ou des mystiques, des personnes qui auraient des visions saintes et ceux qui auraient des visions alors par contre dites hérétiques. À côté, enfin, il y a toujours une frontière qui parfois est assez étrange, et c'est intéressant de voir comment certains écrivains de l'époque vont essayer de se dépêtrer justement entre les deux types d'extase et de vision justement. Donc c'est parfois un peu problématique même pour eux.
Et à côté de ça, en plus, j'arrête pas de parler de condamnation de sorcellerie, mais c'est souvent pas nécessairement l'Église qui condamne, c'est souvent en fait c'est l'État souvent qui fait des procès pour sorcellerie, même si c'est clair que en tout cas les tout premiers procès pour sorcellerie étaient à chaque fois associés au fait à un autre problème. C'était souvent quelqu'un qui avait abusé sur quelque chose et du coup on mettait la sorcellerie par-dessus tout. C'était vraiment un truc en plus. Et ça, c'était surtout vers la fin du Moyen-Âge. Et puis ensuite, à la Renaissance, c'est vraiment devenu un truc à part. Voilà, on pouvait être condamné vraiment pour sorcellerie en elle-même. Mais avant, c'était vraiment juste une excuse en plus, quoi. La petite goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Oui, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'exécutions qui n'ont pas du tout été validées, que ce soit par l'État ou par l'Église. C'est vraiment la vindicte populaire, les gens se réunissaient, voilà, on accusait n'importe qui par sorcellerie. Et évidemment, c'est toujours sous la torture hein, qu'on avouait être sorcier ou sorcière, et donc voilà, on fabulait, on disait tout ce qu'on avait pu entendre comme type de sorcellerie, alors on accusait tout le monde, et pour en finir avec la torture, on pourra en parler lors d'un autre podcast, mais en tout cas, voilà, ça va se répandre à un moment donné, ça va vraiment devenir fou au niveau des procès pour sorcellerie. Mais même si c'est le peuple et parfois l'État qui lance tout cela, ce sont quand même bien des textes de frères. C'est quand même bien l'Église qui va lancer un petit peu tout cela. On aura une bulle hein, du pape, c'est Innocent VIII, je pense, qui va faire cette fameuse bulle papale. On va avoir aussi les deux grands textes dont on vous parle tout le temps au niveau de la sorcellerie, qui sont le Formicarius et le fameux marteau des sorcières, le fameux Maleus Maleficarum. Donc voilà, on peut présumer que ce sont des hommes un petit peu frustrés qui ont écrit ces différents textes, qui ont rattaché tout leur malheur sur ces pauvres sorcières et sorciers.
Juste à propos de la bulle papale, il y en a eu plusieurs, mais en fait, je pense que celle auquel tu fais allusion, c'est celle de Jean XXII, qui en août 1326 fait une bulle qui s'appelle Super Illius Specula, et qui, elle, associe sorcellerie et hérésie.
Tout ça nous amène au sabbat.
Tout ça nous amène au sabbat.
Alors nous avons bravé donc les sorcières et la chaleur pour vous ramener un petit extrait sonore de ce fameux sabbat. C'est tout de suite.
Qu'est-ce que tu penses de cette assemblée de sorcières ? je suis vraiment impressionné, je vous dis. Ces danses envoûtantes sont incroyables. Je sens Satan s'approcher de moi.
Est-ce que tu es prêt à l'embrasser sur l'anus?
Exactement. Bonne baisse sur l'anus.
Alors, ce fameux sabbat, bah, ça se passe toujours dans les campagnes. D'ailleurs, on considère que le sabbat, c'est un peu l'équivalent du carnaval, qui lui est plutôt urbain, justement.
Juste pour en revenir sur la sorcellerie, c'est d'ailleurs quelque chose qui se fait... Enfin, c'est plutôt dans les campagnes que ça se voit, ce qui n'empêche pas que même jusqu'aux cours princières, on utilise des trucs... genre Louis d'Orléans, il utilisait des trucs mystiques et tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout des pratiques qu'on retrouve dans les campagnes, moins en ville.
Mais il y aura des procès pour sorcellerie qui seront terribles dans les villes
également. Tout à fait, oui,
également.
Oui, ça empêche.
Alors, donc, ce fameux sabbat, bah, il est célébré bah, dans une clairière, parfois un carrefour. C'est toujours de nuit, dans un endroit plutôt désert. Ce sont parfois des lieux plutôt stratégiques, ou là où il y a un vieil arbre, ou bien une vieille pierre, voilà, une porte qui craque. Je crois que le diable est...
Et parmi nous.
Et parmi nous. On va peut-être arrêter de faire des invocations... sataniste, mais voilà, donc on a un certain nombre de personnes qui se retrouveraient le soir. Alors, on sait que dans les campagnes, les gens, surtout liés aux fêtes agricoles, finalement, se retrouvaient et faisaient la fête, en fait, tout simplement. Alors, on boit, on s'amuse, alors ça peut mener parfois à ce que... la petite Lucette et le petit Léon finissent dans les fourrés tous les deux, mais... Voilà, je ne pense pas qu'il y avait de choses très, voilà, trop olé-olé ou trop condamnables, mais évidemment, on se laisse aller, on boit, on est peut-être un peu saoul, on tient peut-être des propos parfois qui peuvent déplaire à l'église.
Ou des propos intolérants et pas de tolérance.
Voilà, c'est les pires, ceux-là. Merci, Georges. Et donc, voilà, au bout d'un moment, bah, on va finir par associer... des réunions, des danses qu'on pouvait avoir, à d'abord une vision un peu plus païenne de ces réunions, et puis on va les transformer en vision sataniste, enfin en réunion satanique, où le diable fait son apparition, le fameux grand cornu.
Il fait méga peur, celui-là.
Il fait méga peur. D'ailleurs, si vous... Oui,
oui, non, j'allais dire, dès que tu m'as dit ça, ça m'a fait penser directement au tableau de Goya.
Voilà.
Le sabbat, je pense qu'il s'appelle.
Alors, il y en a deux. Il y a le sabbat des sorcières, qui est une œuvre un tout petit peu plus ancienne, où là, il y a ce fameux bouc qui est là, debout, avec une femme qui est un peu agenouillée devant lui. Enfin, c'est un peu mystérieux. Il y a une assemblée tout autour de lui. Et il y a une peinture qui, elle, date de la fin de sa vie, hein, qu'il a réalisée avec toutes ces peintures, dont fait partie ce fameux Saturne dévorant son enfant, qui sont des peintures assez, assez marquantes. Et on en a une, justement, avec encore un sabbat des sorcières, justement. Alors, un des éléments majeurs du sabbat, c'est la danse. On va danser toute la nuit, et c'est ce qui se retrouve encore aujourd'hui dans le fameux sabbat des sorcières d'Elzel, où on va retrouver de la musique, où on va avoir des gens qui vont être soit masqués en sorcières, mais on va aussi avoir des hommes avec des cornes, qui vont être avec des peaux d'animaux. Enfin, on a vraiment un côté très animal qui est présent, qui est très mystérieux. Et donc voilà, on n'est pas loin de ce qu'on aurait pu imaginer d'un sabbat à l'époque, sauf que bien évidemment ici le sabbat est bon enfant, mais bon, le but est le même, le but est de s'amuser, de passer un moment aussi tous ensemble, de boire un verre, hein, même comme on l'a fait. Évidemment, c'est toujours très compliqué de savoir en quoi consistaient exactement ces réunions, si elles ont eu lieu un jour, mais voilà, on peut supposer qu'on dansait et qu'on s'amusait.
Ouais, en tout cas, dans les procès de sorcellerie, il y a beaucoup d'exagérations concernant ces sabbats, aussi sur leur fréquentation. J'ai vu dans un des procès, on dit qu'il y a genre 12 000 personnes réunies à un sabbat gigantesque, enfin bon, des chiffres complètement hurluberlus. Donc voilà, tout ça est complètement... on fantasme complètement sur ces sabbats par rapport à ce qu'ils sont réellement, des moments d'échange, de joie, oui, des moments où les gens un peu hors de la société se retrouvent pour pester sur le pouvoir central, enfin, comme on fait maintenant, quoi. C'est l'instigation de la révolution.
Mais alors, évidemment, c'est toujours... on parle d'anthropophagie, les sorcières qui mangent les enfants des villageoises et des villageois, qui mangent même parfois leurs propres enfants.
En fait, J.K. Rowling, elle aurait quand même pu faire une version vachement plus trash de Harry Potter.
Ah oui, parce que mais, là...
c'est franchement gentil, quoi.
Moi, mais bon, l'allusion à la baguette du sorcier d'Harry Potter n'est peut-être pas anodine.
Ah oui, tu crois ?
Oui, que hein? Harry agite sa baguette tout le temps.
Hein ?
Ouais.
J'ai jamais pensé à ça.
Il y a un truc qui dit qu'il faut remplacer à chaque fois baguette par pénis.
Ouais.
Ça donne une lecture différente de toi, Harry Potter.
Ouais.
En tout cas, quoi qu'il en soit,
on ne lirait plus Harry Potter de la même façon.
En tout cas, on parle de femmes voilà, qui vont s'enduire d'un onguent, comme j'ai dit, particulier. On dit parfois qu'elles frottaient une verge de bois bien petite et des palmes en leurs mains. Elles mettaient cette vergette entre leurs jambes et elles s'envolaient où elles voulaient. Et le diable les portait où elles devaient faire la dite assemblée. Et alors, on retrouve dans ce fameux Maleus Maleficarum le fait que ces actes sexuels sont en fait complètement impurs. Et ils ne sont même pas commis finalement pour le plaisir, mais vraiment pour l'infection du corps et de l'âme. Chose très grave. D'ailleurs, tu l'as lu quelque part, on proposait de baiser l'anus du diable.
Oui, voilà. Mais bon, l'anus, du coup, qui prenait une espèce de forme de tête. Enfin bon, des trucs vraiment bizarres.
Vous l'avez, des gros hémorroïdes.
Honnêtement, les gens sont vraiment chelous. Non, mais vraiment. Comment est-ce qu'on arrive à penser à tout ce genre de trucs, quoi ? C'est quand même incroyable.
Mais oui, je crois que...
L'imaginaire, sans limite.
On projette, finalement, ses plus grandes peurs.
Sûrement.
Un peu ses fantasmes, peut-être.
Ouais.
En tout cas, ça n'est pas le sabbat auquel nous avons insisté ce soir, qui était assez bon enfant, je dois dire.
Bon enfant. Vu le nombre de familles présentes,
encore heureux
que c'était bon enfant.
En tout cas... Voilà, Elzel, c'est pas le seul endroit où on a décidé de refaire vivre ce fameux sabbat. D'ailleurs, ce soir, nous avions la présence des fameuses sorcières de Stambruge. Et on peut aussi parler des fameuses Macrales, qui se trouvent plutôt du côté de Liège.
Mais tu es toujours fameuse, mais moi, je ne les connais pas du tout, donc j'aime bien que tu m'en parles.
Je dis qu'elles étaient fameuses parce qu'elles faisaient peur.
Ok, d'accord.
Et qu'on a vu plus d'un enfant pleurer.
Ça, oui, ça, c'est clair.
En les voyant. Mais voilà, je ne sais pas si tu as encore des choses à ajouter sur le sabbat.
C'est un sujet. Enfin, oui, en fait, quand on parle de sabbat, il faut parler de sorcellerie. Il faut faire le parallèle avec maintenant, avec ces nouvelles mouvances écoféministes, néo-païennes et tout ça. Bref, il faudrait passer des heures dessus.
Voilà, mais on désirait vraiment rester centré sur le sabbat parce qu'on pense que ce serait intéressant de creuser encore plus la sorcellerie et donc justement, comme tu le disais, tous les liens qu'on peut faire. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que dans l'imagerie à l'époque, tout d'un coup, on se dit, voilà, ce ne sont plus des personnes seules qui agissent dans leur coin. Il y a vraiment une entité démoniaque, il y a vraiment un rassemblement. Parce que évidemment, après, c'est compliqué de se dire que tous nos maux ne viennent que d'une personne qui agit comme ça dans un coin du village parce que c'est simplement une vieille femme, parce qu'elle sait guérir, ou etc., etc. C'est beaucoup plus simple de se dire qu'il y a vraiment une entité maléfique qui nous veut du mal, qui fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues.
Tout à fait, et heureusement, vers la fin du XVIIe siècle, les gens vont un peu commencer à prendre... Enfin, les autorités, dans un premier temps, vont prendre un peu conscience que les procès qu'on fait à la sorcellerie, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, une fois qu'une peine capitale est prononcée pour sorcellerie, souvent, on va en appel. Enfin, il y a des appels qui se font, et du coup, les peines sont allégées, puis on condamnera plus, et puis on interdira même la condamnation. Ça nous viendra du Parlement de Paris, tout ça. Donc voilà, Paris, ville des Lumières.
Et c'est ainsi que se termine notre podcast. Arne, j'étais très heureux de te revoir pour cette petite soirée bien agréable.
Mais plus qu'une soirée, pour notre aventure que nous tairons en grande partie dans le podcast. Notre aventure dans le sabbat des sorcières. Et sorciers ? Ou juste sorcières ?
On parle du sabbat des sorcières.
Ok, dans le sabbat des sorcières, à Elzel.
Dans le Hainaut.
Dans le Hainaut.
Voilà, pas très loin de chez moi. Et nous clôturerons cette émission par cette fameuse phrase du sabbat des sorcières. Arne, est-ce que tu es prêt? On n'est jamais tout à fait
prêt. On n'est jamais fait, on est prêt pour un...
Attention, chers amis. Oup, oup, Ricky Riquette, Patzerlé et les bouchons, Volodial et Copulon.
Voilà, exactement. Bravo Mathias, bien dit.
Merci, allez, on se retrouve pour un prochain épisode de Godéamus. Très rapidement, on vous fait des gros bisous. N'oubliez pas les étoiles sur iTunes, les commentaires, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à nous rejoindre.
À aller sur Facebook, à nous suivre sur Instagram.
Et à faire partager le podcast autour de vous. En tout cas, on vous aime et on vous embrasse. Et on vous dit à très vite. Gros bisous, salut tout le monde. We'll be right back.